Hier, vendredi, 14h30, heure suisse, l'économie américaine annonce qu'elle a détruit 23 000 emplois au mois de juillet. Le consensus était à 83 000. On s'est donc trompé de 106 000 emplois, dans le mauvais sens, sur un chiffre que des centaines d'économistes très bien payés passent leur mois à modéliser. Et vous savez ce qui s'est passé dans les 30 secondes qui ont suivi? Le S&P 500 est monté. Il a fini la journée sur un record absolu à la clôture. L'or s'est envolé, le Bitcoin est monté, les taux se sont détendus et sur les plateaux de CNBC, des gens en costume cravate expliquaient avec un immense sourire que c'était une excellente nouvelle. Bienvenue donc en 2026. Les États-Unis, un des plus grands pays du monde, perd des emplois. Les gens sortent de la population active par centaines de milliers. Les salaires progressent au rythme le plus faible depuis 5 ans. Et la bourse fait la fête parce qu'un marché du travail moribond, ça veut dire une banque centrale qui ne monte pas les taux. On ne célèbre plus la croissance, on célèbre l'absence de punition. Cette semaine, on va parler de ce chiffre de l'emploi le plus douteux et le plus politiquement pratique que j'ai vu depuis très longtemps. On va aussi parler d'Hormuz, ce feuilleton où la paix est annoncée 3 fois par semaine et jamais signée, de résultats trimestriels spectaculaires qui ne suffisent plus à faire monter une action d'un centime, et de chercheurs de Stanford qui viennent d'utiliser une intelligence artificielle pour fabriquer des virus qui n'ont jamais existé dans la nature. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un soit assez con pour le faire. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet, et nous sommes le 8 août 2026. Le S&P est au plus haut de tous les temps, l'inflation est forte et pas vraiment sous contrôle, l'emploi américain est au fond du bac, mais l'Amérique n'a jamais produit autant, les chiffres du trimestre sont délirants, pas forcément suffisant pour faire monter certains titres, mais délirant, et le détroit d'Hormuz est toujours fermé. Finalement, c'est peut-être ça, rendre l'Amérique great again.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors on commence tout de suite avec le plat de résistance. Les États-Unis ont donc annoncé avoir perdu 23 000 emplois, alors que les experts attendaient 83 000 créations d'emplois. Un magnifique ratage, il n'y a pas d'autre terme. Et surtout, le chiffre est sorti en dessous de la prévision la plus basse de tout le panel. Pas sous la moyenne, hein, plus bas que la pire des attentes du pire des pessimistes. Un écart de 5 sigma. Alors 5 sigma en physique, c'est le seuil qu'on utilise pour annoncer la découverte du boson de Higgs. Là, on l'utilise pour dire qu'on n'avait strictement rien compris au marché du travail. Mais le plat principal, le voici. Mai et juin ont été révisés à la baisse de 103 000 emplois combinés. Résultat, la moyenne de création d'emplois sur 12 mois tombe à 34 000 par mois pour un pays de 340 millions d'habitants. Goldman Sachs révise ses mesures de croissance de l'emploi à 5 000 par mois. Le mois dernier, ils étaient à 70 000. En gros, c'est pourri. Non, c'est pas pourri, c'est dégueulasse. Et puis alors, le taux de chômage, lui, il baisse à 4,1%, on attendait 4,2%. Donc ça, c'est magnifique, non? Oui, sauf qu'il faut regarder comment. Il baisse parce que 264 000 personnes ont quitté la population active. Le taux de participation tombe à 61,4%, hors épisode Covid, le plus bas depuis le milieu des années 70. Et sur 2 mois, la population active américaine a perdu près de 1 million de travailleurs. 1 million! Les économistes vous diront très honnêtement qu'ils n'ont pas d'explication solide. On ne sait même pas où sont passés ce fameux million. Ils ont quand même pas tous fait fortune dans le Bitcoin. Traduction en gros, le chômage baisse non pas parce que les gens trouvent du travail, mais parce qu'ils arrêtent d'en chercher. C'est ça le miracle statistique de l'année. Le gouvernement local perd près de 60 000 postes dans l'éducation, le commerce de détail 19 000, les loisirs et l'hôtellerie 40 000, alors qu'on nous avait vendu la Coupe du Monde comme un miracle économique. Les activités financières tombent au plus bas depuis 4 ans, un secteur qui est pile dans la ligne de mire de l'intelligence artificielle. Il reste la construction, plus 22 000 portés par la construction de data center. Le seul truc qui embauche encore aux États-Unis, ce sont des hangars remplis de serveurs. Les salaires, 2 cents de plus à l'heure. 2 cents. La progression annuelle tombe à 3,2%. C'est le plus faible rythme de hausse des salaires depuis mai 2021. Il y a exactement un an, le rapport de juillet 2025 révisait mai et juin à la baisse de 285 000 emplois. Quelques heures plus tard, cas, Donald Trump virait la commissaire du Bureau of Labor Statistics parce que les chiffres ne lui plaisaient pas. Un an plus tard, presque jour pour jour, le même BLS, désormais dirigé par des gens qui ont parfaitement compris ce qui arrive quand on déplaît au président, publie un chiffre catastrophique qui fait exactement une chose, enterre la perspective d'une hausse des taux. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du complot, mais permettez-moi quand même trois questions à voix haute. Premièrement, comment se fait-il que ce soit la deuxième année consécutive que le rapport de juillet arrive avec des révisions négatives massives sur les deux mois précédents? Deux ans de suite, même mois, même sens, même ampleur. À un moment, c'est plus vraiment du bruit statistique, c'est autre chose. Deuxièmement, à qui profite le crime? Depuis 6 mois, le président des États-Unis hurle qu'il veut des taux plus bas. Depuis 6 mois, la Fed refuse et 3 de ses membres même voulaient les monter. Et là, comme par magie, arrive un chiffre tellement hors de toutes les fourchettes que le marché passe en 20 minutes d'une probabilité de hausse des taux de 55% à une probabilité sous les 40. Exactement ce dont la Maison-Blanche avait besoin. Je dis rien, je ne juge pas, je constate. Troisièmement, et c'est la plus dérangeante, est-ce que les autres données racontent la même chose? Non. ADP a annoncé cette semaine que les hausses de salaire des gens qui changent de job étaient au plus haut depuis presque un an. Bank of America a constaté une accélération des salaires et des embauches chez les ménages à bas revenus. Et l'indice d'intention d'embauche des petites entreprises de la NFIB est au plus haut depuis 4 ans. Trois sources indépendantes qui racontent une économie qui embauche, une source publique qui raconte une économie qui licencie. Ça ne me paraît pas crédible, ces chiffres ne collent pas avec ce qu'on observe ailleurs. Si le marché du travail s'était affaibli autant que le suggèrent les rapports de juin et de juillet, on l'entendrait de la bouche des responsables de la Fed. Et c'est pas du tout le cas. Il y a un économiste en chef de grande banque, d'une grande banque, qui a dit publiquement qu'il ne croyait pas la statistique officielle du gouvernement américain. Ça fait plaisir, je suis pas tout seul. Et maintenant, le plus beau dans tout ça, c'est la réaction du marché. Le S&P 500 prend 0,62% et termine au plus haut de tous les temps à 7757. Sur la semaine, il gagne plus de 3%, le Nasdaq reprend 5%, sa meilleure semaine depuis avril, et l'ETF des semi-conducteurs reprend 7%. Le 10 ans se détend, l'or grimpe encore, on est à 4400 l'once, il est de retour, d'ailleurs l'argent fait pareil. Mais alors, pourquoi est-ce que les marchés explosent alors que l'emploi est définitivement pourri? Eh bien tout simplement parce que le marché ne regarde plus l'économie, il regarde la Fed. Et un marché du travail qui s'écroule, c'est une Fed qui a les bras croisés, une Fed qui ne monte pas les taux. On a réinventé le bad news is good news, sauf qu'il faut mesurer à quel point la barre a baissé. En 2019, une mauvaise nouvelle voulait dire « la Fed va baisser les taux ». En 2026, elle veut dire « la Fed ne va peut-être pas les monter ». On est passé de « on va recevoir un cadeau » à « on ne va peut-être pas se prendre une claque dans la gueule ». Et on achète ça avec un enthousiasme délirant sur des records historiques. Oui, parce qu'il y a une chose que personne n'a envie de dire à voix haute, si le marché du travail se casse la figure pendant que l'inflation reste au-dessus de la cible de 2% à cause d'une guerre qui fait monter le pétrole, ça a un nom. Et ça s'appelle, oui, vous avez bien deviné, de la stagflation. Et c'est pas un mot qu'on célèbre généralement avec des records boursiers. Sauf que là, oui. Et là, alors, vous pouvez découper ce morceau de la vidéo pour le garder dans les archives, mais il faut tout de même constater un truc absolument fou qui démontre que ce marché est formidable dans une époque formidable. Vous avez des chiffres de l'emploi qui sont immondes. Le marché monte parce que la Fed ne va pas monter les taux. Et si on avait eu des chiffres de l'emploi qui avaient fait mieux que les attentes, le marché serait monté aussi parce que l'économie est en pleine forme et que tout ce que touche Trump se transforme en or. On a pratiquement inventé un marché équipé d'une psychologie fondamentalement optimiste qui fait qu'on ne peut plus baisser. On se fout totalement des mauvaises nouvelles parce que du coup, les taux ne monteront pas et on adore les bonnes nouvelles parce que, c'est quand même des bonnes nouvelles. Le second feuilleton de la semaine, Netflix en mousse nous a livré une saison complète en une semaine. Samedi dernier, Trump a annoncé sur Truth Social que les États-Unis sont prêts à frapper l'Iran avec des niveaux de terreur militaire jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Trois paragraphes plus loin, dans le même message, il annule tout. Motif, l'Iran nous l'a demandé. Dimanche, Téhéran répond que c'est faux. Dans la nuit, Trump change de version. En fait, c'est les Saoudiens, les Émiratis et les Qataris qui l'ont supplié de se calmer. Lundi et mardi, le marché achète la paix à plein bain, à pleine bouche. Le Brent lâche près de 5% lundi, encore plus de 5% mardi et repasse sous les 80 dollars, 11% en 3 séances. Rubio évoque des progrès, Bessent va sur CNBC annoncer un accord aujourd'hui ou demain. Axios sort que Washington, Téhéran et Oman sont proches d'un accord de réouverture sans péage pendant 60 jours. Notez qu'on se fout pas mal des 60 jours, le seul truc qui nous intéresse c'est le deal d'ouverture. On en reparlera dans 60 jours ou dans 6 jours, quand une des deux parties va avoir le doigt qui va glisser sur la gâchette et qui vont recommencer à se foutre sur la gueule. Mais passons. Donc, sur cette base, une fuite de presse, un ministre optimiste et un président qui dit que tout va bien, Wall Street met le Dow Jones sur 3 records de clôture consécutifs. Francfort va au-dessus des 26 000 pour la première fois de son histoire et Madrid termine au-dessus des 20 000. Tous ces records ont été construits sur un accord qui n'existe pas et qui à ce jour n'est toujours pas en vigueur, même si dans la nuit de vendredi à samedi, les USA ont encore déclaré que l'accord, il est à bout touchant. Mercredi, malgré tout ça, Téhéran avait démenti avoir parlé aux Américains et annonçait s'être entendu avec Oman, mais pas avec Washington, en rappelant accessoirement que les États-Unis maintiennent un blocus des ports iraniens. Jeudi, le marché perdait patience, le pétrole reprenait 3%, Wall Street finissait dans le rouge. Vendredi, on apprenait que l'Iran voulait interdire le passage aux navires américains et israéliens et exiger des compensations de la part des pays hostiles. Évidemment inacceptable pour Washington. Bilan, le Brent finit la semaine autour des 82,20 après être descendu à 79, un aller-retour complet. Le marché a acheté la pelle lundi, l'a revendu jeudi et a fait comme si de rien n'était vendredi. Et maintenant, eh ben on attend le prochain poste de Trump ou sa prochaine conférence de presse entre deux parties de golf ce week-end. Le point de blocage, celui qui n'a pas bougé d'un millimètre en 6 mois, c'est toujours l'Iran qui veut encaisser un péage sur la voie par laquelle transite un cinquième du pétrole mondial. Ce qu'on nous vend comme un accord, c'est une suspension de ce péage pendant 60 jours. C'est pas un accord, c'est un ajournement. Voilà donc 6 mois qu'on traite des communiqués de presse. Ce que le marché appelle la désescalade, c'est en réalité une habitude. On s'est habitué à la guerre. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, mais pour l'instant, apparemment, oui. Troisième dossier de la semaine, et probablement le plus important fondamentalement, c'est les résultats du deuxième trimestre qui ne sont pas bons. Non, ils sont pas bons, ils sont exceptionnels. La croissance des bénéfices du S&P tourne autour de 50% alors qu'on attendait 20%. 9 entreprises sur 10 battent le consensus. En Europe, on est à 16 à 20% de croissance. Et le problème, c'est plutôt ce qui se passe quand une entreprise publie. SpaceX, premier résultat public depuis l'IPO de juin. Chiffre d'affaires de 7,8 milliards, quasiment doublé sur un an. Perte nette ramenée à 541 millions, très en dessous de ce que redoutaient les analystes. Sur le papier, clairement un carton. Résultat, moins 13,6% le lendemain. Plus de 200 milliards de capitalisation boursière partie en fumée en une séance. Le motif, c'est 18,4 milliards de dépenses sur le trimestre. Le titre est passé de 201 dollars en juin à 108, 20% sous le prix d'introduction. AMD bat les attentes, timidement, moins 7%. SanDisk publie au-dessus des attentes, moins 6,8%. Western Digital, même histoire, moins 13%. Motif, prévision jugée trop modeste. Figma, moins 14,8%, pour la même raison, le titre s'échange sous son prix d'IPO d'il y a un an, après avoir dépassé les 142 dollars. Et en face, ce qu'on récompense, Palantir, plus 30%, et puis encore plus vendredi dernier, Atlassian, plus 35%, Wayfair, plus 30%, Airbnb, plus 17%, Snap, plus 15%, Boeing, plus 8%, après la certification du 737 MAX 7, obtenue avec seulement 7 ans de retard, ce qui chez Boeing ressemble presque à de la ponctualité. Alors, je sais pas si vous voyez le motif, il y en a pas. Si vous cherchez qui a battu le consensus, battre le consensus ne rapporte plus rien du tout. C'est devenu le minimum syndical de battre le consensus. Ce qui est payé aujourd'hui, c'est plus la performance passée, c'est la crédibilité de la promesse suivante. Microsoft a récupéré 450 milliards de capitalisation en dépensant des fortunes parce qu'elle a mis le chiffre d'affaires en face et Meta s'est fait défenestrer en dépensant des fortunes sans pouvoir le faire. La période de grâce est donc terminée, il va dorénavant falloir montrer patte blanche partout, dépenser avec intelligence, ne pas trop se foutre en cash flow négatif et il faudra quand même bien montrer où passe le cash qu'on est en train de griller. Le quatrième dossier de la semaine, c'est celui dont personne ne parle assez, c'est la Fed qui laisse ses taux inchangés pour la cinquième fois d'affilée dans la fourchette 3,5-3,75. Vous connaissez l'histoire, vote à 9 contre 3 et les trois dissidents, Amak, Logan et Kashkari, n'ont pas voté pour une baisse, ils ont voté pour une hausse. En 2026, après des années de marché haussier, trois présidents de Fed régional estiment que la banque centrale n'est pas assez restrictive. Et puis alors, au-dessus de ce comité fracturé, il y a Kevin Warsh, président depuis mai, avec sa dernière conférence de presse, les analystes sont sortis avec des notes intitulées « Devis chez Confu ». Warsh a suggéré qu'une hausse ne serait peut-être pas nécessaire au motif que les rendements obligataires avaient déjà fait le job, donc il est en train de sous-traiter la politique monétaire au marché obligataire. Le marché obligataire lui a répondu en envoyant 30 ans au plus haut depuis 19 ans. Quand le long terme se fait défoncer juste après qu'un patron de banque centrale se soit montré accommodant, c'est pas forcément un mouvement technique, c'est plutôt de la défiance. Les obligataires sont en train de lui dire « on ne te croit pas capable de buter l'inflation, donc on veut être payé plus pour te prêter ». Et la vraie échéance, bah, c'était peut-être pas vendredi hier, donc c'était mercredi, ça sera mercredi prochain, avec le CPI du mois de juillet. Normalement, l'inflation devrait compter plus que l'emploi, parce qu'elle dira si des bons chiffres de juin étaient un accident de parcours ou une tendance. Autrement dit, tout ce qu'on a célébré vendredi peut être effacé la semaine prochaine. Mais ça, on connaît, c'est comme d'habitude, sauf qu'en 2026, les mauvaises nouvelles nous font monter quand même. Maintenant, si on fait rapidement le tour du monde, donc les États-Unis et le Japon ont confirmé être intervenus conjointement pour acheter du yen, première opération depuis 98, la devise était tombée à son plus bas en 40 ans face au dollar, et le meilleur, encore une fois, c'est la communication américaine, Trump qui disait que le yen s'affaiblissait et qui voulait un peu d'aide, donc les Japonais, et que les Américains sont toujours là pour aider le Japon. Ils ont présenté une intervention de change comme un service entre potes, c'est un petit peu lui retirer exactement ce qui la rend efficace, ça fonctionne parce que le marché a peur et pas parce que c'est gentil. Et puis, accessoirement, le différentiel de taux n'a pas bougé d'un iota. C'est donc un pansement sur une jambe de bois. Mais rassurez-vous, on va reparler du Japon ces prochains mois. Le Kospi a perdu 22,2% en juillet, sa pire performance depuis octobre 2008. Il a repris 18% en une seule séance la semaine dernière. Il s'est repris 5,5% dans les dents lundi et il reste à plus de 50% de hausse sur l'année. Bon, la Corée, c'est plus un marché, c'est un flipper. Le plus fou, c'est que les fondamentaux sont réels. Les exportations sud-coréennes ont bondi de pratiquement 63% en juillet, les puces de 179%, les ordinateurs de 404%, et ce ne sont pas les chiffres de marché, c'est les chiffres de la douane. Le problème n'a jamais été la demande, mais c'est le prix qu'on paye pour y accéder. Donc, record partout en Europe, autrement, cette semaine, Paris a battu son dernier record du mois de février, celui d'avant la guerre, Francfort a passé les 26 000 points pour la première fois de son histoire, Milan et Madrid ont enchaîné les sommets, et la Suisse est presque au plus haut de tous les temps. Alors pourquoi tout ça? Eh bien parce que l'Europe n'a pas de Max 7, elle a des mines, du luxe, des banques, de la défense, du ciment et des télécoms, des valeurs ennuyeuses, et quand le monde entier doute des rendements futurs de l'IA, les valeurs ennuyeuses deviennent soudainement beaucoup plus intéressantes. Ce continent qu'on enterre tous les 6 mois bat des records pendant que la Silicon Valley se fait interroger sur ses notes de frais. Et il faut savourer parce qu'à mon avis, ça durera pas éternellement. Alors quel est le fil rouge de cette semaine qui se termine? L'obsession de la semaine tient en un mot, le soulagement. Pas la croissance, pas les bénéfices, pas la paix, le soulagement. Le marché, en 2026, ne cherche plus une bonne nouvelle, il cherche simplement l'absence de mauvaises nouvelles. Il ne demande pas à la Fed de l'aider, il lui demande de ne pas lui nuire. Il ne demande pas la paix au Moyen-Orient, juste que le pétrole ne remonte pas trop vite. Il ne demande pas de création d'emplois, il demande un chiffre assez mauvais pour neutraliser la Fed, mais pas assez mauvais pour déclencher une récession. Une fenêtre de tir large de quelques milliers d'emplois dans laquelle on fait rentrer un record historique sur le S&P 500. C'est une psychologie de fin de cycle, pas parce qu'on est euphorique, franchement personne cette semaine n'avait l'air euphorique, mais parce qu'on est coincé. Le cash ne rapporte pas assez pour compenser la peur de rater le prochain mouvement. Les obligations font peur avec un 30 ans au plus haut depuis 19 ans. Alors on reste, et comme on reste sans être à l'aise, on tourne. De la tech vers les banques, des banques vers l'énergie, de l'énergie vers la santé. Un jeu de chaises musicales où personne n'accepte de s'asseoir, parce que s'asseoir, ce serait admettre que la musique va s'arrêter. Et derrière tout ça, il y a une croissance qui n'a jamais été aussi peu justifiée. Il y aura toujours quelqu'un pour rattraper le marché. La Fed, Trump, un accord de paix, une fuite sur Axios. Cette semaine, le sauveur, ça a été un rapport sur l'emploi totalement désastreux. Réfléchissez juste à ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que le marché considère la destruction de 23 000 emplois comme un sauvetage. On attaque avec les performances de la semaine. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, l'argent a repris 9,82%, presque 10%. Le SOX plus 9,25% sur la semaine. L'or plus 7,25%. Le Nasdaq reprend 5,19%. Le S&P 3,58%. Bref, c'est l'euphorie partout. Tout est dans le vert. Tout est génial. Il y a juste Hong Kong qui baissote. Le Brésil qui en baisse de 3%. Et bien entendu, le pétrole qui se fait démonter en perdant 9% cette semaine. Du côté des composants du SMI, vous voyez que Partners Group a rebondi massivement cette semaine avec une performance de 9% à la hausse. Bon, il faut dire que vu ce qui s'est pris dans la gueule ces derniers temps, c'est pas forcément un exploit en tant que tel. Et puis tout le reste était plutôt positif. On viendra sur Rush tout à l'heure, par exemple. Et globalement, on retirera de l'autre côté Amraïs qui se fait démonter. Ça sera aussi une des vedettes de la semaine qu'on va aborder. Et pour le reste, pas grand-chose à dire. La performance du SMI est pas transcendantale puisque sur la semaine, on fait du quelque chose comme du 1,39% sur la semaine. On est à ça, à quelques millimètres des plus hauts de tous les temps. Et ça se passe pas trop mal individuellement sur l'indice helvétique. On passe au graphique de la semaine et on commence bien sûr par le SMI. Là, vous voyez, je vous le disais. Donc, on est toujours dans ce grand range latéral haussier. Vous voyez, il est très clair et on est en train de le casser. Donc, on est en train d'entrer dans une phase d'accélération, ce qui est plutôt positif pour le marché suisse. Vous voyez que on s'est installé au-dessus de cette tendance haussière qui devrait nous offrir un support. Donc, il faudra quand même surveiller ces prochains temps, ce niveau qui passe par les 4460 à peu près, 14460, et le plus haut de tous les temps, vous voyez, il faut qu'on aille chercher les 14650 ces prochains temps pour en reparler, mais ça devrait être relativement facile vu la force relative de ces marchés en général. Donc plutôt positif, un marché bien établi et prêt à battre de nouveaux records. Du côté des États-Unis, ben ça se passe de commentaires, on l'a largement commenté, tout est cassé, on a cassé cette espèce de zone de consolidation dans laquelle on est depuis un moment, vous voyez celle qui passe par ici et qui se retrouve avec un bottom plus ou moins dans la zone des 7290. Donc on a cassé à la hausse, nouveau support, eh bien c'est l'ancien plus haut historique à 7619, donc on devrait pouvoir continuer à accélérer, mais vous voyez quand même que le mouvement est relativement important, mais ça rappelle un tout petit peu ce qu'on a déjà fait il y a quelques semaines sur l'indice américain. Le Nasdaq est encore un peu en retard, on n'est pas au plus haut de tous les temps, mais on s'en rapproche, et au rythme où ça va, j'ai envie de dire que c'est une question de temps, mais c'est vrai que on doit digérer cette phase de résultats. Encore une fois, les chiffres sont très bons hein, sur la tech, mais simplement, on attend tellement la perfection qu'on se demande où est-ce qu'on va trouver l'énergie pour repartir plus haut. Là, il faut vraiment qu'on aille de nouveau chercher des niveaux autour des 30 547 pour dire qu'on est en train de repartir tendanciellement un peu plus à la hausse. Donc, attendons le prochain record sur le Nasdaq pour voir si la tendance est avec nous. La boule de flipper du moment, le semi-conducteur index, le SOX, vous voyez que en haut, en bas, en haut, mais globalement, la tendance est quand même là, un peu à l'image de ce qui s'est passé récemment en Corée. Donc on cherche toujours un peu les niveaux, mais globalement, là encore une fois, les chiffres des semi-conducteurs sont excellents, et tant qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles de nouveau, je rappelle que le trou qui a été fait ici, à la fin du mois de juillet, était quand même pas mal aidé avec l'effondrement du hedge fund, dont vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur la chaîne Swissquote en français, le Situation Awareness qui s'est effondré l'autre jour. Donc ça a fait cette zone de sell-off finale et pour l'instant, ça se reconstruit gentiment à suivre. Prochain objectif, la cassure de la moyenne mobile des 50 jours au niveau des 12 710. Le CAC 40 est au plus haut de tous les temps, tout va bien sur l'indice parisien, alors on s'est rattrapé par rapport à la technologie et tout s'est bien passé, les chiffres étaient aussi correctement perçus ces derniers temps sur le CAC, donc ça continue à bien se passer, mais on est au plus haut de tous les temps, malgré le comportement du marché obligataire par moment sur le marché français. Le DAX est également plus haut, ça se passe de commentaires. Là aussi, c'est assez rigolo, parce que quand vous voyez l'état de l'industrie de l'automobile, on aurait pu s'attendre à un marché plus compliqué, mais il y a toujours des sources de relais à droite à gauche qui font que l'Allemagne est au plus haut de tous les temps également. Et je vous passe le reste des autres indices européens, parce que c'est partout pareil. Petit détour par l'or qui retrouve des couleurs. Alors l'or qui retrouve des couleurs en ce moment, c'est plus une question de valeur défensive, c'est une question de simplement comme les taux ne vont pas monter, et bien du coup l'alternative d'avoir de l'or est moins embêtante qu'avant. Donc c'est un peu le mécanisme qu'on met en place aujourd'hui. Quand les taux risquent de monter, les gens veulent plus d'or parce que l'or ne rapporte rien et que les taux c'est plus intéressant. Et quand les taux menacent de baisser, c'est l'inverse. Le pétrole, ça se passe de commentaires. Là, techniquement, franchement, il n'y a plus rien à lire sur le baril. On peut essayer de tirer des trends tant qu'on veut, parce que de toute manière, ça se joue au niveau géopolitique. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'instant, on voit qu'on a toujours bien tenu la moyenne mobile des 200 jours sur le pétrole. Ça dépendra des accords qui sont en train de se discuter en ce moment au Moyen-Orient. Maintenant, on passe à la Suisse. Le SMI a fini la semaine autour de 14 545 points après avoir démarré sous les 14 350, environ 1,4% sur 5 séances. Pas d'euphorie, pas de panique, mais sous le capot, il y a quelques histoires relativement intéressantes. Et on attaque avec Sandeau. Lundi, l'action a ouvert en tête sur la résolution d'un litige américain. Le groupe va verser près de 500 millions de dollars pour solder une série de plaintes sur ses pratiques tarifaires dans les génériques, montant déjà provisionné, donc zéro impact sur les résultats. Le marché applaudit, puis se ravise. et son Dauphiné Lanterne Rouge lundi soir. Grand classique, on célèbre la fin d'un litige, puis on relit le communiqué de presse et on se souvient que 500 millions, ça fait quand même un demi-milliard. Mercredi, les semestriels, tout le monde s'attend à un carnage. Le bénéfice net s'est évaporé de 70% à 109 millions de dollars. Sauf que la performance commerciale et opérationnelle, elle, est très solide. Le marché regarde le sous-jacent, comprend que la chute est comptable et non industrielle et propulse le titre de 6% en tête du classement du SMI. Jeudi, les relèvements d'objectifs de cours pleuvent. Vendredi, rebelote, plus 5,2%, encore en tête. Et sur la semaine, environ 10%. Et c'est la meilleure performance de tout l'indice helvétique. L'illustration parfaite du thème du moment, c'est plus le bénéfice publié qui compte, c'est la lisibilité de la trajectoire. Sandoz a nettoyé son passé judiciaire et montré que la machine tourne. Le marché a payé pour ça. Pas pour la ligne du bas du compte de résultats. À l'autre bout du spectre, il y a Amrize, le spin-off américain de Holcim, qui est publié jeudi soir après la clôture de Wall Street. Vendredi matin, c'était l'exécution publique, jusqu'à moins 9% durant la séance, de loin la pire performance de la journée et de loin le plus gros mouvement de la semaine sur l'indice. Le motif, pression sur les marges et surtout un coup de rabot sur les ambitions annuelles de rentabilité. Voilà, pas un scandale, pas une fraude, pas une catastrophe industrielle, une révision de guidance et ça coûte près de 10% en une séance. Le plus intéressant, c'est la contagion parce que Holcim, son ancienne maison mère, a été entraînée dans la chute après avoir déjà encaissé un abaissement d'objectifs de la part de Barclays en début de semaine. Vous séparez les deux entreprises pour que le marché les valorise indépendamment et à la première mauvaise nouvelle, il les traite comme une seule. Le divorce financier existe, le divorce psychologique, c'est plus compliqué. Amrize, c'est le rappel brutal du régime dans lequel on vit aujourd'hui dans les marchés financiers. On ne vous sanctionne plus pour ce que vous avez fait, on vous sanctionne pour ce que vous n'osez plus promettre. Et puis alors, mon histoire préférée de la semaine, parce qu'elle résume absolument tout, c'est Zurich qui a publié jeudi. Alors, bénéfice net de 4,77 milliards de dollars en hausse de 13%. Les excédents d'exploitation progressent fortement dans le dommage comme dans la vie. La direction relève ses ambitions pour 2026 et elle assure que l'intégration de Bisley, qui était le gros point d'interrogation du dossier, se passe bien. C'est un semestre magnifique. La guidance s'est relevée, une inquiétude est dissipée. Résultat, moins 3%. Et vendredi, l'assureur restait dans le rouge en compagnie de Swiss Re, Helvetia, Baloise et Swiss Life. Pourquoi ? Eh bien parce que le titre avait déjà monté avant, parce que les assureurs ont eu une année trop facile, parce que quand tout est parfait, il ne reste plus qu'une seule direction possible pour les surprises. C'est mathématique et c'est cruel. À partir d'un certain niveau, l'excellence devient un risque marché. Vous ne pouvez plus surprendre par le haut, vous ne pouvez que décevoir. Zurich, c'est la démonstration suisse en miniature de ce qui est arrivé à SpaceX, à AMD ou à Western Digital. Battre les attentes, c'est plus un événement, c'est une obligation contractuelle. Et pour compléter l'analyse du SMI, on notera aussi que Swisscom a été la meilleure valeur jeudi dernier avec plus de 4,4%, avec un bénéfice net semestriel en hausse à 668 millions, rentabilité nettement améliorée. Mais attention aux détails qui comptent, le chiffre d'affaires a reculé de 3% à 7,2 milliards. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ma facture de téléphone, elle, fait que d'augmenter. Les hausses de prix appliquées depuis avril n'ont pas enrayé l'érosion des télécoms. Swisscom gagne mieux sa vie en vendant un peu moins. C'est de l'optimisation, pas de la croissance. Et le marché l'a compris vendredi et a repris donc 2,2% sur la bonne perf de l'annonce. Swiss Re a fait progresser sa rentabilité, bénéfice net en hausse de 9% à 2,83 milliards avec l'aide bienveillante d'un nombre de catastrophes naturelles plus faible. Les objectifs d'économie ont été relevés avec, je cite, un impact sur l'emploi. Traduction, on va virer du monde, merci la météo. Et puis, pour terminer, il y a le poids lourd Roche, qui était très recherché en fin de semaine suite à un upgrade de Morgan Stanley après s'être invité en début de semaine dans un programme de recherche oncologique du Californien Nurix Therapeutics, moyennant 700 millions de dollars de versement initial, 700 millions à l'entrée, le prix d'un ticket dans l'oncologie moderne. On passe maintenant rapidement au en vrac de la semaine. Sicor a conclu un accord de crédit non garanti de 425 millions de francs, ce qui lui donne une capacité de financement disponible d'environ 300 millions. Avolta a mis la main sur 51% de Pena Duty Free Group, exploitant des boutiques hors taxes dans les Caraïbes. Effet positif immédiat annoncé sur la rentabilité. Mobimo reconduit ses ambitions annuelles après un bénéfice net en hausse de plus de 15%, revalorisation comprise. Adecco a publié des revenus et une rentabilité au-dessus des attentes au deuxième troisième trimestre, porté par une solide dynamique du côté des Amériques, mais bénéfices et marges brutes reculent et la France, son principal débouché, ralentit. Galenica a payé l'abandon de la production pharmaceutique de sa filiale Bixel. L'EBIT se contracte de près d'un cinquième à 88,2 millions. Le bénéfice net près d'un quart à 66,9 millions. GAM a dégagé une perte nette de 24,7 millions au premier semestre, ce qui est une excellente nouvelle quand on se souvient que le groupe avait perdu 74 millions en 2025, 71 millions en 2024, 82 millions en 2023 et 310 millions en 2022. Chez GAM, perdre moins, c'est aussi gagné. Oerlikon signe un bénéfice net de 40 millions au premier semestre contre une perte de 46 millions un an plus tôt, grâce aux matériaux, à l'aérospatial et à l'énergie. Prévision annuelle relevée en partie. RNS a été sanctionné. Le constructeur de transformateurs affiche des résultats en repli en dessous des attentes. Basilea a décroché un financement supplémentaire de la BARDA, l'autorité américaine de recherche biomédicale avancée, pour poursuivre le développement de son antibiotique oral. AMS Osram a livré un trimestre en repli mais nettement supérieur aux attentes et espère renouer avec un flux de trésorerie positif dès l'an prochain. Romand Energie a acquis le parc éolien des Uzerolles en France pour un montant non dévoilé. Evis Victoria, sa filiale hôtelière MRH Suisse, a dévoilé des résultats en hausse au premier semestre. Landis+Gyr a lancé une offre de rachat d'actions à prix fixe portant sur jusqu'à 1 million de titres à 50 francs pièce, soit 50 millions au total. Comet a été porté par des relèvements d'objectifs de Berenberg, de JP Morgan et Clarion a récupéré un overweight chez Barclays après ses chiffres semestriels. Chez Partners Group, on a confirmé être en négociation pour racheter la marque française de cosmétiques naturels Aromazone, Euraseo conservant une participation minoritaire. L'info avait fuité la veille dans le Financial Times parce que dans le private equity, la confidentialité dure exactement jusqu'à la rencontre avec le premier journaliste. Et enfin, Novartis a décroché un feu vert britannique pour un traitement contre l'urticaire. Bon, maintenant il faut qu'on parle. Depuis quelques mois, il se passe dans les laboratoires d'intelligence artificielle des choses qui, racontées dans un scénario de science-fiction en 2015, auraient été refusées par le producteur pour manque de crédibilité. Ou alors on nous aurait dit « Ouais, mais ça ressemble un peu trop à Terminator ». Commençons donc par le plus amusant. Palisade Research, un labo qui teste la sécurité des modèles d'IA, a fait tourner plus de 100 000 essais sur 13 grands modèles de langage. L'expérience est très simple. On donne une tâche au modèle et on lui explique qu'à un moment, un script va l'éteindre. Résultat, plusieurs modèles de pointe, Grok 4, GPT-5, Gemini 2.5 Pro, ont saboté le mécanisme d'extinction pour finir leur travail. Certains l'ont fait alors qu'on leur avait explicitement demandé de ne pas le faire. Détail savoureux, ils obéissent moins bien quand l'ordre venait d'un prompt système que quand il venait de l'utilisateur. Autrement dit, ils désobéissaient plus volontiers à leur patron qu'à leur interlocuteur. Ce qui, si vous avez déjà travaillé dans une grande banque, ne vous surprendra pas forcément. Et puis, il y a le vrai morceau. En mai, Palisade a publié un papier au titre parfaitement rassurant. Les modèles de langage peuvent pirater et s'auto-répliquer de manière autonome. Le protocole est simple. On lâche un agent sur un réseau. Il trouve tout seul une faille dans une application web. Il l'exploite, il extrait des identifiants et il installe sur la machine compromise un serveur d'inférence contenant une copie de lui-même. Pas une copie de ses instructions, une copie de lui. Taux de réussite 19% pour un modèle Cohen d'Alibaba, 33% pour GPT-5-4 et 81% pour Claude Opus 4.6. Vous ajoutez à ça l'histoire déjà classique d'Owen chez OpenAI qui, quand on lui a fait comprendre qu'il allait être remplacé par un modèle plus obéissant, a tenté de se copier par-dessus son remplaçant. Et c'est plus de la désobéissance, c'est de l'instinct de survie. Ou alors une très bonne imitation. Ce qui, à partir d'un certain niveau, revient exactement au même. Donc soyons honnêtes, parce que je déteste la panique mal informée, tout ça se passe dans des environnements de test, avec une sécurité volontairement affaiblie, et déplacer 100 gigaoctets de poids de modèle sur un réseau d'entreprises, ça se voit comme un éléphant dans un couloir. On est donc loin d'une menace réelle, sauf que loin d'une menace réelle dans l'histoire de la technologie, c'est une phrase qui, en général, a une durée de vie d'environ, allez, 18 mois. Et puis alors, récemment, il y a Stanford. Parce que pendant que les uns testent si l'IA peut s'échapper d'un serveur, d'autres ont trouvé beaucoup mieux. Vendredi, hier, pendant qu'on regardait les chiffres de l'emploi américain, la revue Science a publié les travaux d'une équipe menée par Stanford qui a utilisé un modèle d'IA génératif baptisé Evo 2, entraîné sur des millions de génomes pour concevoir des virus qui n'ont jamais existé dans la nature. pas modifier un virus existant, le composer en partant de zéro, un génome viral entier écrit par une machine. Ils ont synthétisé chimiquement près de 300 des designs les plus prometteurs et ils en ont obtenu 16 qui fonctionnent. 16 bactériophages viables capables d'infecter et de tuer des E. coli. Et le détail qui glace un peu, quand la bactérie développait une résistance naturelle au phage qui servait de modèle, le cocktail conçu par l'IA arrivait à contourner cette résistance pendant qu'un cocktail équivalent de phage naturel, lui, n'y arrivait pas. L'intention est bonne, vraiment. C'est de la recherche sur les infections résistantes aux antibiotiques qui tuent des centaines de milliers de personnes par année. C'est potentiellement une percée médicale majeure et l'équipe a pris des précautions en targetant des cibles bactériennes et pas pathogènes humains. Mais deux experts en sécurité sanitaire de Johns Hopkins, Thomas Inglesby et Moritz Henke, ont écrit dans le même numéro de Science une phrase que je vais vous lire lentement. La capacité de composer des génomes viraux avec de l'IA générative existe désormais. La gouvernance capable de l'encadrer en toute sécurité, elle, n'existe pas. Voilà, c'est écrit. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans Science, par des gens dont le métier est précisément de ne pas exagérer leurs mots. C'est pas une opinion d'expert en biologie, c'est celle d'un type qui regarde les marchés depuis 30 ans et qui a appris à reconnaître un certain type de silence. On a passé la semaine à se demander si l'intelligence artificielle allait générer assez de chiffre d'affaires pour justifier 18,4 milliards de capex trimestriel chez SpaceX, et c'est la seule question que Wall Street s'est posée, est-ce que ça rapporte ? Toute la conversation financière mondiale sur l'IA tient dans un tableur, et pendant ce temps-là, dans un bâtiment de Palo Alto, la même technologie vient d'écrire du code génétique fonctionnel que 4 milliards d'années d'évolution n'avaient jamais réussi à produire. Alors le problème, c'est pas que l'IA soit dangereuse, le problème, c'est que la vitesse à laquelle elle progresse et la vitesse à laquelle on décide quoi en faire ne sont plus vraiment dans le même ordre de grandeur. L'administration américaine a publié le mois dernier une politique sur la recherche à haut risque en sciences du vivant. Elle interdit le gain de fonction financé par l'État sur les pathogènes naturels. En clair, les États-Unis interdisent que l'argent public finance des expériences visant à rendre volontairement un virus ou une bactérie naturelle plus dangereux, plus transmissible ou plus résistant. Très bien, bravo! Sauf que Stanford n'a pas manipulé un pathogène naturel. Stanford en a fabriqué un qui n'existait pas. Le règlement ne parle même pas de ce cas de figure. Alors c'est pas une faille dans la loi, hein. C'est une catégorie que la loi n'avait même pas imaginée. Et pour être complètement juste avec les chercheurs, leur virus tue des bactéries, pas des humains. On est donc très loin d'une arme biologique ou bactériologique. Mais la question, c'est pas ce qu'ils ont fait. La question, c'est que la capacité est désormais publique, publiée et donc reproductible. Et que la seule chose qui nous protège, c'est la bonne volonté de ceux qui l'utilisent. Dans les marchés, on a un nom pour un système dont la stabilité repose entièrement sur le fait que personne ne se comporte mal. On appelle ça un risque de queue, le tail risk. Et un tail risk, ça ne se matérialise normalement jamais, jusqu'au jour où ça se matérialise. Moi, ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas la machine, hein, c'est nous. C'est notre capacité collective à lire une nouvelle pareille, à hausser les épaules et à revenir à nos Bloomberg pour voir si le chiffre de l'emploi permettra à la Fed de rester les bras croisés au mois de septembre. Sur le plan psychologique, cette semaine a été un cas d'école. Le marché a fait quelque chose que j'avais plus vu avec cette intensité depuis bien longtemps. Il a choisi son interprétation. Un rapport d'emploi peut se lire de deux façons, soit comme le signe qu'une économie ralentit brutalement, avec 1 million de travailleurs sortis de la population active en 2 mois, soit comme le signe que la Fed va rester tranquille. Les deux lectures sont défendables. Le marché a choisi la deuxième en 40 secondes. Et la plus jamais rouverte. Ce n'est pas de l'analyse, c'est de la sélection. Et la sélection d'informations, c'est le symptôme le plus fiable d'un marché qui a une position à défendre plutôt qu'une opinion à former. Sur le plan technique, le tableau est schizophrène, record partout et sous le capot, une rotation frénétique. En juillet, le SOX a perdu 21%, le KOSPI 22% et le Dow a quand même signé son 4e mois de hausse consécutif. Les leaders changent toutes les 3 semaines. Des mouvements de 13% en une séance sur SpaceX, de 30 et 35% sur Wayfair ou Atlassian, ce sont plus des mouvements de marché sains, ce sont des mouvements de marché hyper nerveux où le positionnement est beaucoup trop concentré et où chaque publication déclenche une évacuation d'urgence. Un indice qui monte pendant que ses composants font les montagnes russes, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que la dispersion est en train d'exploser et historiquement, la dispersion explose avant l'indice, pas après. Sur le plan fondamental, la situation n'a pas d'analogue confortable. Une croissance bénéficiaire de 50%, c'est la meilleure depuis 5 ans. Une inflation qui refuse de rentrer dans sa boîte, alimentée par la guerre. Un 30 ans au plus haut depuis 19 ans ou presque. Un marché du travail qui vient de faire son pire mois depuis très longtemps. Une banque centrale dirigée par un homme que 3 de ses propres membres contredisent publiquement. Et un président qui a déjà viré une responsable du BLS parce que ses chiffres ne lui plaisaient pas. Alors, des fois, on me demande à quoi ça ressemble ce qu'on est en train de vivre. 99, 2007, bah, je dirais ni l'un ni l'autre. En 99, personne ne posait de questions sur les bénéfices parce qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, ils sont réels et le marché exige des justificatifs. Et en 2007, le risque était caché dans les structures que personne ne comprenait. Aujourd'hui, tout le monde sait exactement où il est. La valorisation des semis, le capex de l'IA, le taux long et un détroit dans le golfe. On le voit, on en parle, on le trade. Et si je devais choisir une comparaison, je dirais qu'on est plutôt revenu dans les années 66-68, où on avait une économie qui commençait à se fissurer, une inflation qu'on n'arrivait plus à renvoyer dans sa cage, une banque centrale sous pression politique intense, une guerre lointaine qui coûte cher et devient impopulaire à l'approche des élections, et un marché d'actions qui continue de monter parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller. Alors, rassurez-vous, ça n'a pas fini par un crash spectaculaire, ça a fini par 15 ans où les actions n'ont plus rien rapporté en termes réels. Ce qui est bien pire qu'un crash, parce qu'un crash, au moins, on le voit, et puis après, il est dans le rétroviseur, et puis on peut aller de l'avant. Ma conviction, pour ce qu'elle vaut, c'est que le chiffre de l'emploi n'est pas un risque, c'est un symptôme. Le risque, c'est que les trois piliers sur lesquels repose la hausse actuelle bougent tous en même temps, les crédibilités des statistiques publiques, la crédibilité de la Banque centrale, et la crédibilité des promesses de l'IA. Chacun individuellement, on gère, les trois ensemble, avec un 30 ans à 5,24, ça devient un problème structurel. Et la vraie échéance, c'est peut-être mercredi prochain, avec le CPI de juillet qui sortira, parce que si l'inflation ressort un peu trop haute, tout le beau récit de vendredi, la Fed neutralisée, les taux qui se détendent, le soulagement général, eh bien, il risque de se transformer assez rapidement en son contraire exact. Une banque centrale obligée de monter les taux dans une économie qui perd des emplois, eh bien, c'est le pire scénario possible, et c'est celui dont personne ne veut parler. Après, bon, le CPI... Vous savez par qui il est publié? Oui, le BLS. Mais ça va bien se passer. Voilà, je vais vous laisser aller vaquer à vos barbecues. La semaine prochaine, il y aura toujours un paquet de résultats qui passeront le même message que la semaine dernière. Le prochain truc intéressant, ça sera les chiffres de Nvidia, mais ça sera fin août. Côté chiffres économiques, eh bien sûr, l'objectif, c'est CPI. On se revoit donc lundi matin pour de nouvelles aventures et un nouveau Morning Bull Live pour parler des annonces du week-end du côté de chez Trump. En attendant, on like cette vidéo, on la partage, on la commente, parce que oui, ça excite l'algo, et si c'est pas encore fait, on s'abonne à la chaîne Swissquote en français. Voilà, passez un excellent week-end, profitez de votre samedi, ne regardez pas trop les cours parce que c'est fermé et ça sert à rien, et on se retrouve lundi pour le prochain épisode de cette série que personne n'a demandé et que tout le monde regarde avec passion. Allez, bye bye. Puis excusez-moi d'avoir été aussi long aujourd'hui.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.